Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire.
Enerco Amag, émission spéciale, avec aujourd'hui donc en manette aussi Andrea.
Hello, hello everybody.
Oui. Donc moi-même qui pesais. Et un invité donc spécial, puisqu'il est de, proche de, d'Enerco, mais il ne fait pas partie directement d'Enerco, Michael Soulier, donc qui travaille au pour le PETR et qui va se présenter. Donc, bon, Michael, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Salut.
Voilà, donc bon, on aimerait bien pour que les auditeurs aussi fassent connaissance un peu avec toi, que tu te présentes, que tu dises un peu ce que tu as fait, et après on abordera ton travail au sein du PETR.
Oui, d'accord. Donc, Michael Soulier, je suis chargé de mission énergie-climat au pôle d'équilibre territorial et rural Centre-Ouest Aveyron. Ça fait une quinzaine d'années, donc j'ai 45 ans, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur la transition énergétique en Aveyron. Mon parcours a d'intérêt pour les auditeurs, sur le fait que j'ai cherché à passer de surtout d'actions individuelles à des actions collectives. Donc à la base, je suis originaire du bassin du Casvillois. Mes grands-parents travaillaient dans la sidérurgie dans le bassin. Mes parents sont partis à Paris quand les mines ont fermé. Et donc, j'ai été assez tôt sensibilisé aux problématiques sociales, environnementales et économiques liées aux ressources, au partage de la valeur des ressources naturelles dans le bassin, notamment. Donc après, j'ai fait des études en sciences physiques à Montpellier. J'ai eu quelques expériences dans le secteur privé, en recherche et développement, notamment. Mais j'avais besoin de m'épanouir dans un emploi qui a trait à l'environnement. Et donc, je suis parti une année en voyage, notamment dans des pays du Sud, notamment en Afrique de l'Ouest, pour m'inspirer culturellement de comment est-ce que les gens arrivent à vivre heureux avec peu de choses, dans la sobriété. Et notamment, comment est-ce qu'ils valorisent leurs ressources naturelles. Et donc, ça m'a sensibilisé à nouveau à cette notion de partage des valeurs des ressources naturelles, et notamment à la transition énergétique, aux problématiques énergie et climat. Et je partais au départ pour travailler dans l'humanitaire en Afrique, et finalement, les Africains m'ont donné une bonne leçon de sagesse en me disant qu'en fait, c'était l'Afrique qui aidait la France et qu'il valait mieux que je revienne chez moi pour faire le ménage devant ma porte, ce que j'ai essayé de faire à partir de 2007, puisque j'ai repris mes études à la licence sciences et technologies des énergies renouvelables à Tarbes. Et j'ai créé mon poste à la mairie de Noël-Château en 2007, où je me suis rendu compte en tant qu'économe de flux, qu'en fait, la transition énergétique, ça pouvait être très rentable pour un territoire, puisque pour un euro investi, que ce soit dans l'économie d'énergie ou les énergies renouvelables, ça rapporte au territoire en retombée locale 3 euros à moyen et long terme. Donc après 3 années d'expérience à la mairie de Noël-Château, j'étais embauché au Pays ruthénois qui fédérait 50 communes. Et j'ai tenté de sensibiliser et de travailler avec les élus sur l'économie d'énergie, la rénovation du patrimoine public, des bâtiments, de l'éclairage public, et comment valoriser aussi les énergies renouvelables au niveau local. Et donc toujours dans le souci de partage de la valeur de ces ressources naturelles, j'ai fait venir notamment pour témoigner la SEM de la Nièvre Énergie. On s'est inspiré aussi de ce qui était fait dans le Nord-Pas-de-Calais et de la communauté de communes du Menet en Bretagne.
Oui, donc quand même un parcours très riche avec beaucoup d'expériences très différentes qui toutes nous passionnent au fond, puisqu'elles vont dans le même sens, celui de la transition énergétique telle qu'on peut l'arriver, en tout cas telle qu'il faudrait la mettre en œuvre de plus en plus vite, semble-t-il, si on veut vraiment s'intéresser au devenir de la planète. Donc on en arrive alors au PETR, donc où ta mission.
Voilà, donc, le PEO Ténois a fusionné avec le PEO Occidental en 2015 pour créer le PETR, donc Pôle d'équilibre territorial et rural. C'est un syndicat mixte qui fédère 8 communautés de communes plus Rodez agglomération. Donc au total, ça représente un territoire de 123 communes pour 155 000 habitants. Et donc ce pôle territorial a pour objectif de faire la planification et l'aménagement durable des territoires par la coopération entre les différentes communautés de communes et Rodez agglomération. Et en fait, de mettre en adéquation les projets des élus du territoire avec les critères d'aide des différentes institutions. On contractualise notamment avec l'Union européenne, l'État et le Conseil régional Occitanie. Et donc, dans ce SCOT, le schéma de cohérence territoriale, il y a un diagnostic qui a été fait sur la consommation d'énergie et la production d'énergie renouvelable. Des objectifs qui ont été proposés aux élus, donc notamment les objectifs qui sont en adéquation avec les objectifs nationaux et régionaux. Donc, dans notre cas, c'est TEPOS, Territoire Énergie Positive.
Oui, comme on l'a
entendu. Et donc, il fallait mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Donc, des actions à la fois sur les économies d'énergie. On a réalisé un peu plus de 70 diagnostics de bâtiments publics. On a accompagné les élus pour la rénovation de ces bâtiments publics. On a travaillé également sur l'éclairage public avec un partenaire comme le CIEDA, incontournable. Et on s'est rendu compte, en fait, que sur ces consommations d'énergie, eh bien, on consommait essentiellement des énergies fossiles et très peu d'énergie renouvelable locale, et que donc ces dépenses énergétiques annuelles qui sont très importantes à l'échelle du territoire n'avaient qu'environ 10% de retombées locales. Donc ça pose la question de l'investissement pour économiser ces énergies, faire des travaux, et ça pose également la question des recettes, notamment apportées par les énergies renouvelables. Donc on a également travaillé sur la partie production d'énergie renouvelable pour essayer de maximiser les retombées locales. Puisque sur un projet d'énergie renouvelable, globalement, si les collectivités, les citoyens ne font pas partie de la gouvernance et du capital, on a uniquement qu'une dizaine de pourcentages de retombées financières sur le territoire, puisqu'il s'agit uniquement de la fiscalité. D'autre part, on s'aperçoit dans le diagnostic que sur notre territoire, qui a pourtant beaucoup de gisements d'énergie renouvelable, de ressources naturelles, on a une forte précarité énergétique qui peut monter jusqu'à 30% de précarité énergétique, alors que la moyenne nationale et régionale est autour de 15%. Donc on voit bien là que d'un côté, on a une problématique sociale, environnementale et économique, alors que d'autre part, on a un gisement, un potentiel d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable qui n'est pas totalement exploité.
D'accord.
Si on fait le parallèle, par exemple, avec l'alimentation agricole, hein, qui nous tient à cœur en Aveyron, on a un potentiel d'autonomie, mais en parallèle, on a de la précarité. Donc c'est un peu comme si on avait des personnes qui avaient du mal à se nourrir sur un territoire qui produit pourtant beaucoup de production agricole.
Bon, d'accord. Donc, pour la précarité, elle viendrait surtout de ce déséquilibre entre ce qui est consommé, ce qui est produit, ce qui pourrait être produit et qui ne l'est pas. Cette précarité, donc, c'est un mot qu'on n'avait pas beaucoup employé dans l'émission. Donc, si tu peux expliquer un peu.
Alors, la précarité énergétique, elle reste à la définir au niveau légal. Mais vos auditeurs peuvent aller sur l'Observatoire national de la précarité énergétique sur Internet, qui explique un petit peu tout ça. Donc, le principe, en fait, c'est que on parle de précarité énergétique quand les personnes commencent à avoir du mal à chauffer leur logement ou à se déplacer pour la mobilité et qu'ils y consacrent plus de 10% de leur budget mensuel.
Oui, d'accord. Donc, voilà. Évidemment, avec tout ce que tu as dit de fort intéressant donc, sur tes missions, je comprends qu'Enercoa ait trouvé une place donc, avec le travail du PETR et avec effectivement le travail fait par le OAC à Villefranche, donc la communauté de communes. Toi, tu peux resituer un petit peu comment tu as connu Enercoa?
Alors en fait, quand le PETR s'est créé en 2015, il y a une loi qui est passée et qui obligeait en fait les communautés de communes de plus de 50 000 et puis après plus de 20 000 habitants à réaliser un plan climat air énergie territorial. En l'occurrence, sur le PETR, on a donc Rodez Agglomération qui avait déjà entamé cette démarche puisqu'il se trouve plus de 50 000 habitants. Et puis le West Aveyron Communauté est également devenu obligé. Donc en 2015, on a proposé de rentrer dans une démarche, d'accompagner les élus dans une démarche de plan climat à l'échelle du PETR pour accompagner les communautés, la communauté de communes West Aveyron, communauté notamment, qui était obligée, mais aussi pour en faire bénéficier les autres communautés de communes qui n'étaient pas obligées, pour que ce soit une démarche collective. Et donc, on a accompagné West Aveyron Communauté sur le plan climat, puisqu'on a apporté les éléments de diagnostic qu'on avait réalisés dans le cadre du SCOT, et on leur a proposé des objectifs de territoire à énergie positive, qui a suscité beaucoup d'intérêt auprès de l'équipe des techniciens, et qui ont également réussi de leur côté à convaincre les élus, dont Michel Delpech et toute son équipe, qui ont fait la transition énergétique un projet de territoire et qui, depuis 2015, ont été exemplaires puisqu'ils ont vraiment investi cette thématique en s'entourant d'ingénierie. Et de notre côté, au PETR, on a proposé un accompagnement plus spécifique sur les énergies renouvelables en 2017-2018 avec le réseau Éclair, qui est un réseau régional pour les énergies citoyennes, locales et renouvelables. Et donc, on a proposé cet accompagnement gratuitement auprès de toutes les collectivités du PETR. Et West Aveyron Communauté s'en est saisi et avec cet accompagnement a donc créé Enercoa en 2019, entouré évidemment d'un certain nombre de citoyens, dont les plus motivés, Yves Abibou, Michel Calvé, que vous connaissez déjà. Et donc, suite à la création d'Enercoa, on a renouvelé cet accompagnement qui nous semblait être une réussite, hein, suite à la création de cette coopérative citoyenne. Donc on a renouvelé cet accompagnement en 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et donc on continue d'œuvrer avec Enercoa pour essayer de pérenniser cette structure et si possible de l'étendre à l'ensemble du PETR, puisqu'aujourd'hui ils ont démarré avec un projet d'une grappe photovoltaïque sur West Aveyron Communauté. Mais il n'y a pour l'instant que la commune de Gramont en Pays Ségalie qui a participé à la démarche. Et notre objectif commun est bien sûr d'essayer de multiplier les projets sur le PETR.
L'Enercoa, donc finalement, ne peut pas se limiter ou ne doit pas se limiter aux limites de la communauté de communes OAC. C'est, si j'ai bien compris, c'est ce que tu disais, puisque comme depuis le début, on a travaillé avec Gramont. Effectivement, avec la commune de Gramont, près de Baraqueville, et on devrait être appelé à travailler peut-être avec d'autres communautés de communes. C'est cela.
Alors, la commune de Gramont a été un précurseur, oui. Sur le PETR, en dehors de West Aveyron Communauté, puisqu'ils ont équipé leur salle d'animation d'une toiture photovoltaïque avec Enercoa. Et donc, un de mes objectifs au PETR est de poursuivre cette dynamique de production d'énergie renouvelable, notamment sur la filière photovoltaïque, puisque quand on a fait le diagnostic du gisement énergie renouvelable sur le PETR, on s'est aperçu que on produisait environ 15% d'énergie renouvelable par rapport au total de nos consommations finales. Et que nos objectifs étaient d'arriver si possible à 50% d'ici 2030 et idéalement à 100% d'ici 2050. On se calque sur les objectifs nationaux et régionaux. Donc pour arriver à ces objectifs très ambitieux, eh bien, il va falloir développer massivement les filières d'énergie renouvelable. Et le gisement le plus important sur notre territoire, et qui existe déjà, c'est le bois énergie, notamment pour le chauffage. Et sur la filière électrique, c'est surtout le photovoltaïque. Donc il y a un gisement important sur les toitures, évidemment, sur les ombrières de parking, sur les sur un certain nombre de zones déjà anthropisées, voilà, avec une interdiction de développer sur sur les zones agricoles. Mais aujourd'hui, il y a une loi d'accélération des énergies renouvelables qui amène les élus à réfléchir, à travailler davantage sur ces questions-là, puisqu'il va y avoir des choix et des arbitrages à faire pour développer ces installations d'énergie, et notamment pour les projets photovoltaïques. Voilà, donc on a déjà un certain nombre de développeurs qui sollicitent les élus pour des projets au sol, notamment, des projets qui peuvent être clivants, qui peuvent faire polémique. Et donc, tout l'intérêt des élus et des collectivités, c'est d'essayer de développer ces filières d'énergie renouvelable dans l'intérêt du territoire et des citoyens. Donc, de faire des projets dans lesquels on va essayer, si possible, de participer à la gouvernance et éventuellement au capital, dans la mesure du possible, évidemment. Et notamment sur les projets photovoltaïques qui sont les plus simples à développer de cette façon-là. On a déjà travaillé avec certaines collectivités qui sont intéressées pour accélérer cette démarche-là, et on est en train d'y travailler actuellement avec les élus du PETR, l'État et puis tous les partenaires associés.
Pour le moment, tu considères qu'il y a à quel pourcentage on serait à peu près sur le territoire du PETR par rapport aux 50% qu'on devrait atteindre en 2030? À combien on est à peu près? Est-ce qu'on a une idée?
Oui. Alors on est à peu près à 15% de production d'énergie renouvelable par rapport à la consommation totale finale.
Oui. Donc il y a quand même encore beaucoup de travail.
Oui, effectivement. Alors, il y a des développeurs privés qui peuvent... on va dire qu'on a établi plusieurs scénarios. Il y a un scénario tendanciel qui permet de se faire une idée de ce qui pourrait se passer si le territoire n'investit pas davantage sur cette question. On sait que, voilà, il y a un certain nombre de développeurs qui sont intéressés pour réaliser des projets sur notre territoire, mais des projets qui sont plus ou moins intéressants et avec un intérêt territorial plus ou moins fort. Donc à ce sujet, il y a Ouest Aveyron Communauté qui a fait un gros travail, notamment de concertation, et qui a abouti à une charte pour le développement des énergies renouvelables.
Dont nous avons parlé.
Pardon ?
Dont nous avons parlé justement là, dans les émissions précédentes.
Oui, voilà. Et l'objectif au PETR, c'est de développer justement ces discussions pour qu'on puisse avoir une véritable politique énergétique à cette échelle, et essayer de planifier justement cette politique énergétique alors on n'arrivera peut-être pas à 50% d'ici 2030, mais en tout cas d'essayer de participer au maximum aux objectifs régionaux.
Oui, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à voir du côté de simplifier peut-être les démarches de tout ce qui est qui associe davantage les réalités citoyennes et locales par rapport à ce qui est déjà possible de faire quand on est un privé?
Oui, alors je vous cache pas qu'on attendait aussi beaucoup de cette nouvelle loi d'accélération des énergies renouvelables sur ce sujet. Sur les énergies citoyennes, locales et renouvelables, on est effectivement un petit peu déçus de cette nouvelle loi qui n'apporte pas beaucoup plus d'avantages, peut-être sur le. On attend encore les décrets d'application qui seront plus précis. Mais effectivement, on espère que, au niveau des prix de rachat, notamment, ou des aides de l'État, les projets participatifs, citoyens, seront avantagés.
D'accord.
Dans tous les cas, d'ores et déjà, toutes les collectivités ont évidemment le droit de demander aux développeurs de rentrer dans la gouvernance, voire dans le capital des projets qui sont proposés sur le territoire.
Bien, donc il faut rester vigilant, et je crois que là, pour cette fois-ci, on doit arrêter.
On va te remercier donc, Michael, et tu vois que ça passe très vite, hein, notre petite émission,
oui.
Et donc peut-être nous reprendrons contact avec toi une autre fois pour essayer de voir justement plus globalement comment les projets de transition énergétique, liés à la transition énergétique, avancent sur ce territoire que nous aimons tous.
Voilà.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires.